Le Salon du patrimoine immobilier, les 3 et 4 avril 2024, au Carreau du Temple à Paris, sur Radio Immo et Radio Patrimoine.
L'heure de retrouver Loïc Quentin sur Radio Patrimoine et Radio Immo. Bonjour Loïc.
Bonjour Cédric.
Merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous sortez de votre table ronde pour l'AFNAIM. Comment est-ce que vous sentez l'immobilier? Parce qu'il y a des doutes, hein?
Alors, 2024 va être une année, je dirais, de transformation différente de 2023. 2023, on a connu une baisse des volumes drastiques, moins 22%. 2024, on va connaître aussi une baisse des volumes, une continuité de la décélération des volumes, mais moins brutale. Mais surtout, 2024, si toutes les conditions économiques restent identiques et stables, nous allons assister à un réajustement par les prix. La baisse des volumes précède toujours la baisse des prix. Et 2024, les vendeurs n'ont d'autre choix que de baisser leurs prétentions dans leurs prix pour que les transactions puissent se réaliser.
Mais une idée de l'ordre, on parle là déjà de 10%.
Ah non, on n'a pas atteint aujourd'hui de régulation de baisse des prix. La baisse des prix nationale a été de 2 points. D'accord. On a des marchés comme Paris qui ont connu une baisse de 5,8% en 2023, 4% en 2022. Mais ce sont là où les marchés avaient le plus augmenté qu'on a vu les plus fortes baisses. Mais tous les territoires n'ont pas été impactés. Puis il y a des territoires qui résistent. Sur la Côte d'Azur, par exemple, on a encore des villes qui affichent encore une progression de prix qui était même, on pourrait qualifier d'insolente, tellement elle est décalée par rapport à la réalité du reste du territoire.
On a beaucoup de politiques qui s'expriment là-dessus maintenant, notamment je pense aux députés des Landes qui remuent ciel et terre pour cette proposition de loi, pour mettre un peu d'huile dans le HCSF. On a le ministre qui déjà est là ensuite et puis qui a l'air d'avoir une feuille de route, des objectifs assez clairs. Qu'est-ce que vous vous dites dans ces cas-là? Vous dites enfin ils ont pris... peut-être bonne mesure de la situation.
Moi, je dirais tant mieux, c'est une bonne nouvelle.
Pendant longtemps,
parce que
on les a brocardés.
On a assisté à 3 ou 4 campagnes présidentielles où le logement était le grand absent, toutes les campagnes politiques, sans prise de conscience. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience, tant mieux, je dirais. Maintenant, une crise économique est toujours l'occasion de revenir sur les fondamentaux, de rabattre les cartes et de revenir, de remettre un peu d'ordre, dans des travers qui ont été rencontrés. Le HCSF dont on parle, que vient faire le HCSF dans une période où le volume des crédits n'a jamais été aussi bas? 10 milliards de crédits distribués en janvier 2024, alors qu'il était préalablement de 25 milliards dans les années de prospérité, dans les années de croissance.
Bien sûr.
Que vient faire le HCSF? Nous, on a demandé tout simplement de suspendre l'avis du HCSF pendant un an, au moins à titre expérimental.
Pour voir.
Laisser au marché, et laissons les banquiers revenir à nos fondamentaux, laisser un banquier faire son job. Il est là pour prêter, et l'emprunteur est là pour... Et le banquier est un capital risqueur. Il faut revenir à ces notions économiques. On n'a pas besoin d'avoir une économie encadrée, dirigée, et encore moins avoir une loi pour redonner un nouveau mode de calcul. La norme, elle est excessive. Il faut redonner de la liberté, de l'oxygène au fonctionnement des marchés.
Donc finalement, vous dites pas ouf, vous dites...
C'est pas ça qui va révolutionner le marché, mais encore une loi pour ça. Je dirais que le bon sens devrait l'emporter. Et je crois que le HCSF est une très mauvaise invention. Et d'ailleurs, je renvoie le HCSF à ses obligations. Quand il a été créé en 2019, il aurait pu avoir une autre attitude plutôt que de ne rien faire et de se réveiller au moment où les crédits s'effondrent. C'est de bouger quand les crédits étaient au plus haut et de limiter la durée d'endettement des Français, ce qui aurait évité peut-être une propulsion des prix vers une hausse.
Voilà qui est franchement dit. Et les Français, vous leur dites quoi? Vous leur dites c'est le moment d'acheter finalement, parce que justement toute crise est bonne à prendre. C'est le moment où...
Une crise est là pour corriger des excès. Il ne faut pas en avoir peur. Moi, c'est la quatrième que je vis en tant que professionnel et aux Français de se dire... Vous savez, quand vous êtes vendeur déjà, vous êtes déjà propriétaire de votre maison. Si vous êtes amené à vendre et vous allez devoir acheter, vous allez certes vendre moins cher, mais vous allez acheter aussi moins cher. La différence, à être financé même à 4%, n'est pas catastrophique dans votre bilan patrimonial. Et finalement, un bien immobilier n'a qu'une valeur faciale. Elle est en fonction des conditions économiques. Ce sont les taux d'intérêt qui étaient à la baisse qui ont orienté les prix à la hausse. Et aujourd'hui, on a des taux d'intérêt à la hausse qui orientent mécaniquement les prix à la baisse. La vraie difficulté dans ce marché, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de politique du logement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pas de politique du logement, de mise en œuvre d'une politique de construction, de construire là où on a des besoins et répondre aux aspirations des ménages, et surtout accompagner les primo-accédants.
Et c'est là qu'eux, ils restent sur le bord du
choix. Ils sont sur la touche. Oui. ils ne peuvent pas accéder à la propriété, ils n'ont pas d'aide, aucun dispositif d'accompagnement. C'est là qu'est la difficulté. Et aujourd'hui, être jeune et vouloir accéder à la pierre, c'est très difficile. On reste locataire. Et quand on reste locataire, on est condamné à rester dans ce statut pendant un moment. Mais malheureusement, la France n'a plus les moyens d'accompagner, d'avoir une vraie politique du logement comme elle l'a eu par le passé, puisque, comme vous le savez, les caisses sont vides, il va falloir trouver des solutions de substitution originales et intelligentes.
Mais pourtant, on passe, enfin, vous, pas forcément à la FNAIM, mais encore que, votre temps a expliqué, compte public à l'appui, que toutes les politiques du logement, quoi qu'elles coûtent, elles rapportent plus qu'elles ne coûtent.
Oui, je mitigerai quand même le propos, parce que même si elles rapportent plus, il faut quand même bien financer les dépenses latérales de l'État, la justice, l'économie, la santé, etc. Donc, voilà, on ne peut pas tout injecter les recettes, notamment du logement, dans le logement. Néanmoins, il faut faire des choix. Et on ne peut pas avoir des stratégies comme annoncer la suppression du dispositif Pinel qui a mis sous le marché du neuf sous perfusion depuis 38 ans et ne pas prévoir un autre dispositif de remplacement. Il aurait fallu d'abord avoir un dispositif de remplacement et dire profiter des derniers jours du Pinel pour pouvoir faire de bonnes affaires. C'est une façon, je dirais, de transformer. Mais aujourd'hui, on va avoir la suppression de ce dispositif. Et là, on a un arrêt de la construction qui est catastrophique. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la construction neuve qui va être à l'arrêt.
Oui.
Parce qu'on a besoin d'un renouvellement.
Et avec la construction neuve, le parc social, et le futur ancien.
Exactement. La promotion privée, elle arrive notamment à accompagner les bailleurs sociaux. 60% de la production de logements sociaux vient de ventes qu'on réalisait en vente à futur d'achèvement par les promoteurs privés, à des prix très maîtrisés, voire même en dessous du prix de revient.
Dernière question, Pascal.
Loïc.
Dernière question, c'est une question que j'ai quasiment posée à tout le monde. Alors, je ne veux pas de réponse 100%, parce que vous pourriez tenter de le faire. Quelle place l'IMO doit avoir dans le patrimoine d'un épargnant, d'un ménage français ?
Je crois que... je ne vais pas raisonner uniquement en tant qu'épargnant, je vais raisonner d'abord en tant que Français, en tant que citoyen. Avant tout, le logement, c'est d'abord un geste et une démarche de justice sociale, et permettre notamment d'abord aux plus faibles d'être logés. Quand je dis souvent qu'il y a 30% des SDF qui ont un travail, c'est bien le logement qui est le facteur d'exclusion. Abbé Pierre disait « gouverner, c'est loger son peuple ». Mais je crois que c'est d'abord le premier des critères d'un pays, c'est d'abord de loger et permettre à tous les Français d'avoir un logement. La détention de la pierre en secondo, en titre patrimonial, est un côté secondaire, bien évidemment. On a besoin d'un parc aussi locatif, privé et public fort, et notamment pour permettre d'accompagner ceux qui ne sont pas encore devenus propriétaires. Mais je dirais, la vraie vision d'un État, c'est de permettre à tout Français qui devient, au moment de sa retraite, puisse avoir un toit sur la tête sans avoir à débourser pour se loger.
Loïc Quentin, donc, pour la FNAIM sur Radio Patrimoine et Radio Immo, à l'occasion de ce salon du patrimoine immobilier qu'on suit depuis 24 heures sur l'antenne. Et on se retrouve pour un dernier rendez-vous dans un instant.
Le Salon du patrimoine immobilier, les 3 et 4 avril 2024 au Carreau du Temple à Paris, sur Radio Immo et Radio Patrimoine.